Vous écoutez France Culture.
Et c'est l'heure de retrouver Jean Lebrun.
Sur les docks. Autant dire, l'heure du documentaire sur France Culture. Aujourd'hui, par Meta Chiteya, des psys, des trans, rencontres du troisième genre. Dans les générations montantes des couches éduquées, on s'est mis soudain ces dernières années à ne plus parler de sexe, mais de genre. Le sexe, c'était une donnée transmise une fois pour toutes, donc une défaite de la liberté. Le genre, c'est une fabrication constante de soi par soi, en somme, une victoire de l'autonomie. La vision et la pratique de la sexualité s'en trouvent transformées, ça on le répète à satiété. Mais les possibilités de changer de sexe s'en trouvent aussi élargies, et cela on ne le sait pas assez. C'est que pour le dire au goût du jour, il ne s'agit plus stricto sensu de passer d'un sexe à l'autre, mais d'évoluer le long d'une gamme au rythme qu'on décide être le sien. Alors certes, les procédures médicales, psychiatriques, administratives demeurent avec leur poids très lourd, d'opérations, d'attestations diverses qui continuent d'encadrer le changement en vue de le réserver à un très petit nombre. Mais la tendance en France dans ce domaine est très clairement, et même maintenant très officiellement, à la dépsychiatrisation. Si une personne, à l'issue d'un autodiagnostic, aboutit à la conclusion qu'elle n'est pas dans le bon corps, de quel droit un psychiatre se mettrait-il sur son chemin ? Le parcours compliqué que cette personne va devoir accomplir ne peut plus être disqualifié par autrui dès lors qu'il est décidé par soi.
Conditions d'hommes comme de femmes, sans anomalies biologiques constantes connues, qui ont le sentiment intense et pénible de ne pas être de leur sexe de naissance, mais d'appartenir au sexe opposé. Les transformations corporelles qu'ils demandent en conséquence aux chirurgiens plasticiens et aux endocrinologues portent sur les signes sexuels primaires et secondaires, et ont pour les transsexuels valeur de rectification. Aucun délire de type schizophrénique n'est détectable. À peu près aucun des termes de cette définition n'échappe à la polémique. Aussi faut-il y voir un essai de caractérisation du problème que pose le transsexualisme et surtout pas l'expression d'un consensus sur la définition de la maladie.
Des psys et des trans, rencontre du troisième genre. Meta Chiteya, Vanessa Nadjar. Ce n'est pas un hasard si le transsexualisme se heurte à des problèmes de définition. Une personne qui a la conviction d'appartenir au sexe opposé à son sexe biologique. La question d'appartenir à un sexe ou à un autre n'effleure même pas la grande majorité des gens. On considère son appartenance à un sexe et puis c'est tout. Comment définir un état qui dépasse l'entendement de quiconque ne l'a pas vécu ? Ce défaut de compréhension est un obstacle à l'une des conditions premières d'une thérapie des maux de l'esprit, l'empathie. Si en revanche on aborde le problème sous son aspect social, les conséquences d'un tel état sont bien plus faciles à imaginer. Combien ma voix grave m'a-t-elle valu de « bonjour monsieur » au téléphone ? Je n'ai rien eu à faire pour être une femme, je suis née comme ça, et j'éprouve systématiquement le besoin de corriger mon interlocuteur afin d'être reconnue comme telle. Je suppose que si j'avais dû passer par des années d'un douloureux parcours médical et judiciaire pour devenir la femme que je suis, je tiendrais d'autant plus à cette reconnaissance. Mais puisque le transsexualisme est avant tout une affaire d'intime conviction, ce sont encore les transsexuels qui sont les mieux à même de nous l'expliquer.
Je m'appelle Florian et je suis trans, c'est-à-dire qu'à la base je suis né biologiquement avec un corps féminin. Et puis du coup j'ai effectué des démarches et des interventions chirurgicales pour changer de sexe, comme on dit.
C'est quelque chose qui te travaille depuis toujours. Est-ce que tu as pris la décision un beau matin en te voyant pousser des seins ? Qu'est-ce qui s'est passé ?
Non, alors en fait c'est vachement plus profond, dans le sens où c'est que dès tout petit, sans avoir la moindre conscience de ce que c'était que le genre masculin-féminin, ma mère me racontait que je voulais pas qu'elle me déguise en fille et que je faisais des petites prières tous les soirs pour être transformé en garçon. Et du coup, voilà, ça a évolué comme ça tout au long de ma vie, et puis jusqu'à ce que je tombe sur une émission où il y avait un trans FTM, donc female to male, et je me suis totalement reconnu, et je me suis dit que c'était possible, donc j'ai lancé les démarches.
Donc je m'appelle Kay, c'est pas mon prénom de naissance, c'est mon prénom choisi, puisque je suis trans et que forcément à partir d'un certain moment on est obligé de changer de prénom, c'est pas qu'on n'aime pas forcément son prénom d'avant, mais c'est que ça marche plus. J'ai 31 ans, moi je me considère comme transgenre, dans le sens anglophone du terme en fait, parce que la façon dont ça a été traduit en France dans le milieu militant, c'est différent. Transgenre en France, c'est une personne trans qui prend des hormones mais qui va pas être opérée entièrement, c'est-à-dire qu'il n'aura pas un corps physiquement d'homme ou de femme, donc une sorte de corps mitigé.
Moi, je daterais le début du mouvement transgenre du début des années 70 aux États-Unis.
Pierre-Henri Castel, philosophe et historien des sciences, chercheur au CNRS.
Là, on commence à avoir des mises en question extrêmement fortes d'un certain type de protocole qui était quand même très coercitif, qui avait été construit notamment à Johns Hopkins dans l'idée de transformer des hommes en femmes, en les faisant pour les protéger justement des stigmates sociaux liés à l'homosexualité ou à l'ambiguïté, à les conditionner de façon à en faire vraiment des hommes ou des femmes dont on ne puisse en aucune manière questionner la féminité. Et donc en particulier avec ce qu'ils avaient appelé the grooming clinic, hein, c'est-à-dire dans lequel on apprenait aux gens à poser la voix, à pouvoir marcher avec des talons hauts, etc. etc. C'est aussi lié à un autre facteur très important, qui est qu'au début, les gens qui avaient posé les problèmes de genre ou de sexe, c'était les intersexuels, et notamment les enfants. C'est sur les enfants en particulier que John Money et Anke Earhart ont travaillé à Johns Hopkins. Il y avait cette idée...
Alors, est-ce que vous pouvez juste définir ce que c'est que les intersexuels?
Alors, les intersexuels, ce sont des gens qui... Alors, eux, c'est, à la différence des transsexuels, il y a des marqueurs biologiques réguliers et constants que l'on connaît de mieux en mieux à mesure qu'on a des... qu'on scanne le génome, hein, on repère des anomalies génétiques particulières, et qui peuvent, par exemple, avoir un certain nombre de cellules avec du XX et d'autres avec du XY, qui peuvent être aussi des XY, mais comme le Y n'est pas activé parce qu'il manque un autre gène qu'ils mettent en fonction sur un autre gène ailleurs, etc., ont une apparence féminine, des gens qui sont XXX, des gens qui sont XXXXY, etc. Enfin, il y a vraiment toutes sortes de séries, ça peut aller très très loin. Il y a les Klinefelter XXY, mais il y a les X0, n'est-ce pas, le syndrome de Turner, mais il y a des gens XXXXY, c'est extrêmement rare. Mais... Puis il y a des gens qui sont ce qu'on appelle des chimères. Certaines de leurs cellules sont XX et d'autres sont XY. Bon. Alors ça pose un problème majeur, c'est que socialement, vous ne scannez pas le génome de votre interlocuteur, vous vous appuyez sur ses apparences et son comportement social. Mais biologiquement, on peut savoir toutes sortes de choses sur son fonctionnement endocrinien, etc. C'est des gens comme Bell, par exemple, qui était un spécialiste des intersexuels écossais, qui en 1915 emploie le terme de gender pour dire, ben voilà, il y a des gens, ça peut pas être leur sexe biologique, hein, c'est leur comportement. C'est pour ça qu'on a parlé d'hermaphrodisme psychique. On a considéré que les transsexuels, c'était probablement quelque chose comme ça, sauf qu'on n'avait pas les clés biologiques.
Mais eux-mêmes, souvent, s'y réfèrent aux intersexuels. Ah bah, parce que justement, ils y trouvent quelque chose d'absolument indubitable et de dans la nature, puisque c'est aussi de ça qu'il s'agit dans leur propre perception d'eux-mêmes. C'est en quoi est-ce que je suis normal?
Est-ce que c'est une perception ou est-ce que c'est l'utilisation des mots, des catégories qui sont disponibles dans le discours pour parler de vous-même? Aujourd'hui, vous avez ça qui est disponible. Ça n'a pas toujours été disponible. C'est l'intérêt, si vous voulez, du travail de l'historien, c'est de comprendre comment les gens s'emparent de ce qui est disponible. Quand les gens veulent vous dire absolument que c'est biologique, je veux dire, ils ne peuvent dire que c'est biologique que parce qu'ils disposent d'un certain type de savoir dont on ne disposait simplement pas il y a 30 ans, hein, et qui sera lui-même différent de ce qu'il y aura. Donc, vous voyez, est-ce qu'ils se perçoivent ou est-ce que finalement, quand on parle de soi, on est automatiquement renvoyé aux mots, aux expressions, aux savoirs validés qui sont autour de vous et dont on ne peut que se servir.
Alors, est-ce que tu peux m'expliquer un petit peu quel est ton parcours, enfin, en résumé, hein, mais...
en résumé, c'est quand même une longue histoire. En fait, je pense que j'ai toujours su que j'étais différent parce que
okay.
Quand j'étais petit, j'ai un frère qui a un an de moins que moi, donc je sais très bien ce que c'est qu'un garçon biologique et enfin, j'ai toujours pu faire quelque part la différence. Maintenant, s'il fallait choisir, je me sentais plus garçon que fille jusqu'à la puberté, on va dire. J'étais acceptée autant chez les garçons que chez les filles, ce qui me convenait très bien parce qu'en fait, j'aimais bien finalement aller dans les deux, des deux côtés. Quoi. Finalement, j'étais peut-être plus chez les garçons, mais j'aimais bien aussi aller chez les filles et j'avais pas envie de me priver de l'un des deux. Quand la puberté a commencé, bon, déjà mon corps a commencé à changer, donc là, ça a été le premier choc pour moi parce que je savais que j'étais pas un garçon vraiment parce que j'ai un frère, mais je pensais que comme je me sentais pas fille, mes seins n'allaient pas pousser. Donc de bol, ils ont quand même poussé. Ça, on n'y peut rien. Donc ça a été le premier choc. Et le deuxième choc, ça a été que c'est le moment des flirts, machin, tout ça. Et donc dans une société très hétéronormée, garçon d'un côté, fille de l'autre. Et qui c'est qui te plaît de l'autre côté ? Enfin voilà. Et là, on m'a mis du côté des filles. Donc là, j'ai commencé par faire... Non, si je dois choisir un côté, je suis de l'autre. Donc j'ai essayé chez les garçons, mais je me suis fait jeter. Et... Du coup, en fait, je suis resté assez longtemps tout seul, quoi, j'avoue. Après, j'ai confondu avec mes attirances sexuelles qui, au départ, étaient à la fois garçon et fille. Et quand on m'a mis dans cette case de fille où je savais pas comment m'en sortir, j'ai bloqué mes attirances pour les garçons. Donc, j'ai gardé les attirances pour les filles et je me suis dit, bon, ben, je suis lesbienne. Donc, j'ai fait l'amalgame que font beaucoup de gens entre genre et sexualité, en fait. Et je me suis développée comme ça tout en pensant quelque part que j'étais quand même garçon, ce qui n'était pas très simple. Du coup, en gros, j'ai pas eu beaucoup d'amis et j'ai eu aucune relation jusqu'à l'âge de 20 ans. Et à l'âge de 20 ans, j'en ai marre, donc je suis sortie avec ma première copine. Et le fait de faire ça, de rentrer vraiment dans le milieu gay, lesbien, de voir qu'il y avait des lesbiennes qui étaient différentes et tout ça, je me suis dit bon... Peut-être que je suis une lesbienne et en même temps, c'était le début d'Internet, j'ai cherché sur Internet et je suis tombée sur des discours qui étaient vraiment... Je suis née dans le mauvais corps, ce que quelque part je pensais à cause de mes seins, mais par contre, j'ai jamais eu envie d'avoir une bite. Donc je me suis dit, est-ce que je suis née vraiment dans le mauvais corps ? Je sais pas trop. Et je pensais que pour faire une transition, il fallait faire de A à Z, quoi. Donc, ce que les gens appellent des transsexuels entiers opérés de A à Z. Donc la phalloplastie, déjà à l'heure actuelle, c'est... pas une technique qui marche vraiment. Je parle d'un truc qui s'est passé il y a 11 ans dans ma tête. Donc il y a 11 ans, c'était encore pire. Comme déjà, un, j'avais pas envie forcément d'avoir une bite entre les jambes. Et que deux, je voyais ça, je me disais bon, non. Et du coup, je me suis dit, faire tout ça, c'est pas accepté dans la société, ça j'en avais conscience. Pour finalement me retrouver encore dans une position qui n'est pas la mienne dans la société. Et en plus avec un corps que peut-être... j'aimerais, en tout cas en haut, mais peut-être pas en bas. Je me suis dit, bah non, je le fais pas, parce que forcément, c'est plus facile de se dire, on le fait pas. Donc après, ben, j'ai un peu évolué dans le milieu lesbien, et j'ai pensé, voilà, je suis lesbienne, jusqu'à ce que je tombe sur un FTM, donc female to male, comme moi, qui a un passing. Donc le passing, c'est quand, comme moi, t'as vraiment l'air d'un mec. Et... qui fait un show, donc moi je vois un mec sur scène et à la fin il se déshabille et il a pas de bite. Et là je fais ok, il peut y avoir des corps qui sont ni hommes ni femmes, donc là j'ai commencé à me renseigner et suite à ça, en plus complètement par hasard, je suis tombé sur une personne intersexuée donc, qui m'a raconté que voilà, lui était né en plus avec les deux organes, qu'il avait été opéré bébé et qu'il avait subi une quinzaine d'opérations jusqu'à l'âge de 10 ans, sans que ses parents sachent exactement pourquoi, parce qu'à l'époque, il n'y avait pas la loi Kouchner, donc les parents n'étaient pas obligés d'être informés de certaines choses. Et qu'à l'heure actuelle, voilà, c'est quelqu'un qui est sous testostérone à vie, comme moi, mais il n'en a pas fait le choix, parce qu'en l'opérant, on lui a enlevé sa façon de pouvoir fonctionner naturellement, qu'il est très faible physiquement, etc. Et qu'en plus, lui ne se considère... Enfin, l'état civil en a fait un homme, mais lui ne se considère ni homme ni femme. Et là, je me suis dit, ok, je suis peut-être pas intersexué, mais quelque part, je me suis jamais retrouvé dans une de ces deux cases. Je pensais que biologiquement, il n'existait que ces deux cases, donc du coup, je savais pas comment exprimer les trucs. Là, je me rends compte qu'en fait, c'est pas vrai. Donc maintenant... j'en ai rien à foutre, je vais faire ce que je veux de mon corps et je vais prendre l'identité que moi j'ai envie d'avoir.
Le grand souci, à l'heure actuelle, c'est que...
Florian.
Pour la société, c'est les filles s'aiment le rose, les garçons s'aiment le bleu. Et je pense que c'est pas prêt de changer pour l'instant, parce que... même les gens les plus ouverts que je connaisse, ils ont toujours des stéréotypes bien ancrés. Et, c'est-à-dire, dans un couple homosexuel, c'est qui fait l'homme, c'est qui fait la femme. T'es trans, mais t'es un garçon, t'es une fille, enfin, pourquoi, enfin, tu te travestis le soir, enfin, c'est que des trucs comme ça. Et on peut être un garçon, malgré le fait que dans mon slip, c'est pas pareil qu'eux.
Okay.
Moi, si j'ai un peu laissé de côté ces questions de genre, c'est parce que je me suis toujours sentie en marge et que le fait d'être lesbienne, déjà, ça me sortait de cette case femme et quelque part, ça me mettait déjà en marge. Surtout à l'époque, maintenant, ça a bien évolué, c'est mieux accepté. Ce qui ne veut pas dire que... Enfin, c'est un truc qui est encore plus profond que ça, où la société a encore plus de mal. Exemple, ma mère a très bien accepté mon homosexualité. Elle a eu aucun problème, elle a accepté toujours mes copines, etc. Là, en ce moment, on a un gros problème parce que changer de genre et modifier son corps, c'est un truc qui est tellement ancré dans les esprits parce que il peut y avoir biologiquement que homme ou femme et si tu nais avec une bite, t'es forcément un homme et tu dois te comporter comme homme dans la société, on te laisse pas le choix. Si tu nais avec une chatte, tu dois te comporter comme femme dans la société et t'as pas le choix. Mais tu peux pas sortir de ça. Et même des gens très ouverts d'esprit comme ma mère, ils ont jamais eu ça dans la tête et quand tu passes cette barrière-là, tu passes à autre chose et là, c'est vachement dur.
Pierre-Henri Castel.
L'énigme centrale qui accompagne toute réflexion sur le transsexualisme, c'est que il n'y a aucun moyen de faire des examens biologiques qui permettraient de détecter des gens qui seraient transsexuels, quel que soit leur discours ou leurs propos. La caractéristique fondamentale de cette situation, c'est qu'elle est auto-diagnostiquée, que le traitement est auto-prescrit et que le traitement est auto-évalué. Il n'y a absolument aucun moyen d'avoir un moyen objectif de remplacer la personne pour dire « voilà, ça a réussi, ça n'a pas réussi, vous en êtes un, vous n'en êtes pas un ». C'est entièrement dans la déclaration des gens. Alors on se retrouve devant une aporie qui est très simple. Puisque c'est auto-diagnostiqué, que le traitement est auto-prescrit et qu'il est auto-évalué, ça tout dépend de la valeur que vous accordez à la parole de quelqu'un. Si vous êtes dans une perspective extrêmement libertaire, vous dites que c'est un des fondements de la liberté individuelle, que de pouvoir disposer de son propre corps et de faire ce qu'on veut, qu'il n'y a pas plus de... c'est pas plus un problème de vouloir changer de sexe que de... comme dit Deirdre McCloskey préféré, la glace à la vanille et la glace au chocolat. Hein, ce sont des goûts inscrutables. La seule chose qu'on peut contrôler, c'est que ça nuit à personne si vous faites ça, mais en tant que tel, ça fait partie de vos droits. Ou bien vous allez à l'opposé extrême, consiste à dire qu'une idée pareille est si manifestement folle, hein, une expérience totalement inscrutable, totalement impossible à vérifier, que en soi, ce serait quelque chose de complètement fou. Nos manières bêtes sont
des scandales. Ok.
Moi, j'ai commencé ma transition pour moi il y a un an et demi. J'ai commencé à me dire je vais faire ce que je veux de mon corps et donc la première chose c'est je vais me faire un torse plat parce que ça j'en peux juste plus. J'ai envie de changer mon corps parce qu'il me convient pas tel qu'il est de naissance. Je pense que c'est mon droit parce qu'il m'appartient. C'est une de nos revendications, mais c'est réel.
Le transsexualisme est considéré comme un trouble psychique, mais ne trouve de réponse médicale que dans des traitements hormonaux et chirurgicaux. Après un siècle de recherche, les chercheurs n'ont trouvé ni la source de ce trouble, ni le moyen de replacer les transsexuels dans un genre psychique correspondant à leur sexe biologique. Pierre-Henri Castel.
En fait, au départ, ça a vraiment été pris en charge par une catégorie émergente de savants, qui étaient les sexologues, et notamment les sexologues berlinois, comme Magnus Hirschfeld, qui s'était associé avec un très grand chirurgien de la charité à Berlin, Gorwant, qui avait une expérience de chirurgien de guerre, et qui avait fait opérer un certain nombre de gens, dont un personnage qui était d'ailleurs un des domestiques de Magnus Hirschfeld, qui avait été un des premiers à bénéficier de ce type de chirurgie et de traitement hormonal. Ça, j'en suis moins sûr. Et en fait, la transformation du problème en un problème qui serait véritablement un problème psychiatrique, elle passe par un chemin très différent. Elle passe par l'idée que le paradigme pour penser le changement de sexe à l'époque, paradigme médical, hein, et pas simplement psychiatrique, c'est le cas du président Schreber, de Freud, qui veut donc se transformer en femme, ou qui se vit plus exactement comme étant transformé en femme dans une espèce de système cosmologique extrêmement complexe, où il se pense et se conçoit comme la femme qui manque à Dieu et qui devrait être la source de la régénération de l'humanité. D'une part, donc la plupart des gens qui ont été repérés par les quelques psychiatres qui envoyaient dans ce registre ont été pensés comme des formes de cas du président Schreber. Il faut savoir que l'idée de métamorphose sexuelle, c'est des choses qui ont été observées depuis très longtemps. À ma connaissance, le cas le plus ressemblant, même ça a tellement frappé l'historienne qui s'y est intéressée, c'est au XVIIe siècle. Hein, on a vraiment un cas de quelqu'un qui s'est habillé en femme, mais au point de mettre des vêtements avec des lames en acier pour réussir à s'émasculer lui-même. Voilà, donc c'était un obliot, je crois, du sud de la France, dont on a une description extrêmement précise. Bon. L'exemple, moi, je crois, le plus significatif pour comprendre le type de mutation auquel on a affaire, c'est ce médecin hongrois sur lequel j'ouvre mon livre, qui a correspondu avec Kraft et Bing et ensuite Moll, les deux auteurs de la Psychopathia Sexualis, qui est le grand manuel de psychiatrie et de sexologie avant la guerre de 14. Cet homme, dont à ma connaissance, on ne sait pas l'identité, avant la guerre de 14, se définit comme un homme avec une âme de femme, et après la guerre de 14, dans la correspondance avec Moll, cet homme avec une âme de femme va se définir comme une femme dans un corps d'homme. La différence est tout à fait vertigineuse parce qu'en fait, quand vous êtes un homme avec une âme de femme, vous avez des solutions spirituelles à votre souffrance, hein, c'est-à-dire c'est des sensations féminines qui sont, il vit par exemple les sensations sexuelles comme des sensations sexuelles féminines, intrinsèquement féminines. Et puis, il se passe cet événement, ces deux événements majeurs, la découverte des hormones par Steinhardt, et également la possibilité de la chirurgie de guerre, parce que c'est quand même les soldats blessés au service desquels on a mis, n'est-ce pas, toute cette chirurgie, notamment de refabrication des corps et des organes sexuels mutilés par les obus et les balles de la guerre, et la possibilité donc de fabriquer des organes sexuels autres que ceux qui étaient donnés à la naissance. Et dès ce moment, dès qu'il va prendre connaissance de l'existence de ces possibilités physiologiques ou chirurgicales, il va se redéfinir comme étant dans un corps, hein, mais étant une femme. Son identité, c'est femme, c'est dans un corps d'homme, et donc la possibilité de rectification de la nature. Donc les moyens technologiques, la révolution technologique, modifient totalement le rapport des individus à eux-mêmes.
Florian.
J'ai commencé à 15 ans d'aller voir un psychiatre à Foch, l'équipe officielle de Paris.
L'équipe du docteur Cordier.
Voilà.
Et alors, ça n'a pas posé de problème que tu entres dans ce protocole à 15 ans ?
Que j'y entre, ça n'a pas posé de soucis en soi, c'est plutôt de me faire avancer dedans qui a été un problème. C'est-à-dire que les psychiatres de là-bas m'ont dit que de toute façon j'étais le plus jeune qu'ils aient jamais vu, qu'on ferait rien avant 23 ans, et qu'en attendant, ils feraient en sorte que ça aille plus vite, mais ça c'était juste pour me tenir en fait, pour pas que j'aille ailleurs. J'ai fait deux ans et demi là-bas. À chaque rendez-vous, c'est-à-dire tous les 3 mois, je voyais la psychiatre. Ça a été, on fait en sorte, là on t'a pris rendez-vous avec les chirurgiens, tu vois, ça avance lundi, sauf que les rendez-vous avec les chirurgiens, endocrinologues, tout ça, c'est dans la procédure, c'est-à-dire que quoi qu'il en soit, au bout des 2 ans, il faut avoir tout fait. Il faut avoir vu toutes les personnes, tous les membres de l'équipe. Et c'est plus la carotte au bout du bâton, quoi. C'est vraiment, on te fait croire qu'on te présente à des gens, mais ça n'a strictement rien à voir avec l'avancée du parcours en lui-même.
En pratique, ce protocole, ça consiste en quoi exactement ?
Alors, en théorie, c'est 2 ans minimum de suivi psychiatrique. Et à la fin de ces 2 ans, il y a une commission qui est établie avec tous les membres de l'équipe, même ceux, c'est rare, mais même ceux que tu n'as pas rencontrés. Pour statuer si oui ou non tu es un vrai trans, c'est-à-dire un trans primaire ou pas. Donc si tu rentres dans les cases d'avoir 22 ans, pas plus, pas moins, parce que arriver à 25-30 ans, c'est déjà hop, c'est bizarre que tu arrives si tard, enfin tu vois. Avant, c'est non, t'es pas assez mature, tu peux pas être hormoné. En ayant l'âge requis, il faut pas avoir été marié, faut pas avoir eu d'enfant, faut pas être homo, faut pas, enfin tu vois, il y a toutes sortes de cases qu'il faut éviter et que de toute façon, à la commission, ils vont te dire non si tu rentres dans une de ces catégories.
Et alors, le suivi psychiatrique, ça s'est passé comment ?
Alors, c'était sous forme d'un rendez-vous tous les 3 mois. À chaque fois, c'était les mêmes questions. C'était oui, alors comment ça va aujourd'hui ? Enfin, le premier rendez-vous, c'est ta biographie complète. Comment vont tes parents ? Est-ce que tu les vois toujours ? Est-ce qu'ils acceptent ? Ta sœur, nanani ? Donc, tu retraces toute ta vie en un rendez-vous, voire deux, si ça suffit pas. Et après, à tous les rendez-vous, c'est les mêmes questions. C'est alors, t'as une copine en ce moment ? Alors, qu'est-ce que tu fais avec elle ? Nanani, sexuellement, comment vous faites ? Que des trucs comme ça. Et puis, au bout du compte, ça avance pas. Et puis, au final, il n'y a plus rien à dire, mais on revient toujours sur les mêmes questions, histoire de voir si peut-être que j'aurais peut-être pu changer d'avis entre-temps, on ne sait jamais. Enfin, de te persuader que, est-ce que c'est pas mieux d'être quand même une fille alors que voilà, t'as le corps d'une fille, donc essaye de...
Pierre-Henri Castel.
Il y a un vrai problème autour de ça, qui est un problème de prise en charge par la Sécurité sociale. C'est un protocole qui a été mis en place... À l'époque, c'était un trio qui était composé des professeurs Breton, Luton et Banzé, hein, qui a été mis en place avec, dans une idée, au fond, d'empêcher les amateurs de se lancer dans des expériences qui n'étaient pas suffisamment validées, un peu de voir quoi, s'ils pouvaient opérer les gens, ce que ça aurait donné, etc. Aussi parce que un des principaux inventeurs des techniques chirurgicales, Georges Burou à Casablanca, qui a opéré énormément de gens, les opérait dans une clinique privée, que c'était quelque chose qui était tout à fait marginal, etc. Et qui voulait officialiser les choses et assurer un suivi. C'est aussi parce que ça a émergé dans un contexte qui était celui où il n'y avait pas encore, je dirais, la question du genre en tant que genre. C'était vraiment un changement de sexe, c'était vraiment interprété comme quelque chose de palliatif, faute de meilleur traitement pour cette condition morbide qui faisait souffrir les gens, on les opérait, et puis ensuite on évaluait les effets des opérations. Disons qu'aujourd'hui, les méthodes sont devenues si parfaites que seul un gynécologue peut distinguer maintenant un appareil génital féminin reconstruit à l'apparence. À l'apparence, il n'y a rien qu'on puisse voir. Alors, ce n'est pas le cas pour la fabrication de pseudo-pénis. Voilà, c'est dans ce cadre que les choses se sont constituées. Ensuite, il y a eu beaucoup de résistance à ce que les gens soient opérés. Hein, beaucoup de résistance en France, pas du tout le cas dans d'autres pays.
Mais ça pose un problème éthique quand même. À un moment donné, je pense que dans le serment d'Hippocrate, il y a 2 ou 3 petites contre-indications.
Le principe est très simple, c'est que pour un chirurgien, enlever un organe qui n'est pas malade et qui ne met pas en danger la vie de la personne qu'il a, ça pose quand même un grave problème. Et donc, un des arguments invoqués, ça a été l'hyperpathologisation du transsexualisme. C'est de dire, il y a une menace de suicide, si on n'intervient pas, les gens vont soit s'automutiler, soit se faire opérer n'importe où, soit etc. Et c'est au nom de cet argument hyperpathologique qu'il est devenu possible d'opérer avec l'argent de la sécurité sociale des gens pour les faire échapper... À ce qui était présenté comme une menace vitale. Parce que sinon, le chirurgien, il est quand même lié au fait qu'on n'opère pas à la demande sur n'importe quoi. Si vous voulez vous faire greffer un troisième bras, ou si vous voulez faire enlever un membre sain, parce que c'est votre fantaisie, ça pose un grave problème de déontologie. Donc il faut le justifier. Et comme il faut le justifier, il faut le pathologiser. Et c'est précisément ça qui a fait éclater la polémique libertaire sur la revendication, quand même, de prendre en main les choses.
Après les 2 ans de suivi psychiatrique, qu'est-ce qui s'est passé pour toi? Puisque apparemment, à 17 ans, bon, c'était plié, t'étais diagnostiqué, tout va bien. En théorie, t'aurais pu commencer le traitement au sein du protocole, et donc avec tous les avantages que ça suppose.
Alors, au bout de 2 ans, j'ai demandé à passer en commission parce qu'ils ne l'auraient pas fait d'eux-mêmes. À la commission, il s'est dit que oui, effectivement, j'étais transprimaire, donc c'était un oui implicite parce que la réponse réelle, ça a été non, et pour les raisons suivantes, c'est-à-dire non, ça va t'endommager le cerveau, t'es trop jeune, tu manques de maturité, nan, nan, nan. Et voilà, du coup, j'ai pas pu accéder aux hormones Les chirurgiens de l'équipe m'ont dit oui, non, mais que vous soyez jeune, c'est pas très grave, nanani. Ma psychiatre à moi était vachement, comment dire, optimiste dans le sens où, voilà, pour elle, j'étais apte à l'avoir, mais c'est le psychiatre, ben Cordier justement, qui m'a vu que deux fois tout casser en deux ans, qui a décrété non, il est trop jeune et ça va endommager son cerveau. Nanana. Donc voilà, j'ai pas pu prétendre aux hormones, grâce à l'équipe officielle en tout cas.
Alors du coup, qu'est-ce que t'as fait ? Puisque là, je te vois en face de moi et que de toute évidence, tu as achevé ta transition.
Bah, suite à ce nom de l'équipe officielle, j'ai dit à mes parents que... parce qu'eux, ils préféraient quand même que je reste en équipe officielle parce que c'était quand même plus cadré et tout ça. Sauf qu'ils voyaient pas trop ce qu'il y avait derrière. Et du coup, je suis arrivé un soir à la maison et j'ai dit, bah écoutez, avec ou sans votre aide, moi, je vais passer en privé. Et puis, premier soir, ils ont pas franchement apprécié, mais après ils ont compris que de toute façon ça allait être comme ça et pas autrement. Et puis j'avais le soutien aussi d'autres amis qui étaient passés par là, qui leur ont écrit une lettre et tout ça pour leur dire que fallait me lancer. Et du coup ils ont fait comme d'habitude, ils m'ont soutenu et puis ils ont tout fait avec moi. Et voilà, donc à 17 ans j'ai été voir un autre psychiatre, donc en parcours privé, qui m'a donné une attestation, qui m'a permis d'aller voir un endocrinologue et qui m'a fait la première prescription d'androtardine.
Le principal intérêt du protocole officiel, ça reste le remboursement des traitements par la Sécurité sociale. Qu'en est-il quand tu décides de passer dans un parcours privé ?
Alors, dans un parcours privé, c'est toute ta poche. C'est les opérations de ta poche, la testo, pareil, l'ampoule à 10 euros et quelques de ta poche si t'as pas la LD, les consultations, enfin tout ça. C'est toi qui payes tout et c'est un peu le prix à payer quoi, si tu veux avoir un résultat convenable et qui te pourrisse pas la vie. Et c'est cadré aussi, tu vois, en privé, faut pas, enfin tu vois, en parcours officiel ils te disent que non, les psys du privé c'est des charlatans, ils savent pas de quoi ils parlent, tout ça. Sauf qu'à la différence d'eux, ils s'auto-proclament pas experts, mais ils font juste un face-à-face d'humain à humain. Donc ils sont plus aptes à comprendre et à t'aider à mon avis.
Ok, si on est tout là, c'est parce qu'on a toujours dit depuis le départ avec Fusqueer qu'on serait toujours là pour soutenir les fêtes d'OP, l'opération.
Kay ne répond pas aux critères d'admission au protocole remboursé par la Sécurité sociale. Il a donc dû trouver un moyen original de financer son opération en organisant une torso-partie.
Le but, c'est de récolter des fonds pour me permettre de finir de financer mon opération et d'avoir enfin un torso-passe que j'ai toujours voulu avoir.
Communiqué de presse du ministère de la Santé du 18 septembre 2009.
À la veille de la journée mondiale de lutte contre l'homophobie le 17 mai 2009, la ministre de la Santé et des Sports, Roselyne Bachelot-Narquin, avait annoncé la déclassification de la transsexualité de la catégorie affection de longue durée 23, affection psychiatrique de longue durée. Cette déclassification marque ainsi un tournant majeur, l'admission en ALD 23 étant vécue comme très stigmatisante par les personnes transsexuelles. Les caisses d'assurance maladie vont prochainement être saisies sur un projet de décret proposant la suppression des troubles précoces d'identité de genre, des critères d'admission des affections psychiatriques. La prise en charge de ces patients sera désormais assurée dans le cadre du dispositif des affections de longue durée dite hors liste, 31e maladie, comme le proposait la Haute Autorité de Santé, HAS, saisie par Roselyne Bachelot-Narquin dans son avis rendu en date du 11 juin 2009. Il n'y aura donc pas de rupture de prise en charge pour ces patients. Des instructions très précises seront données en ce sens aux contrôles médicaux. D'autre part, la HAS propose, à l'image de ce qui existe pour certaines maladies rares, la définition d'un protocole national de diagnostic et de soins, PNDS, intitulé « Troubles de l'identité de genre » afin d'améliorer la prise en charge médicale des patients et à l'homogénéiser sur l'ensemble du territoire. La HAS suggère aussi la création de centres de référence sur le transsexualisme afin de pallier l'insuffisance de l'offre en France, génératrice de migration médicale. La ministre de la Santé et des Sports soutient cette initiative de la HAS qui va dans le sens d'une amélioration de la prise en charge des transsexuels. Les associations de personnes transsexuelles seront pleinement associées à cette démarche.
Le 10 octobre 2009,
Les slogans de la marche annuelle Existrans demandaient à Madame Bachelot de ne pas relâcher ses efforts.
Égalité des droits, égalité des choix, tout de suite, maintenant, ça ne se discute pas.
Aucune des autorités compétentes en la matière n'a non plus désiré répondre à notre invitation.
Ça ne se discute pas. Égalité des droits, égalité des choix, tout de suite, maintenant.
Il y a des tas de gens qui vont vous dire que le transsexualisme n'existe pas, mais la transsexualité. Et que c'est souvent d'ailleurs pris dans des argumentaires pour dire une des raisons fondamentales de dépathologiser le transsexualisme, c'est d'adopter la stratégie qui a réussi lorsque, en 1972-1973, on a retiré l'homosexualité. C'est-à-dire que c'est sur le même... En mettant transsexualité plutôt que homosexualité, vous définissez un type de sexualité. Et ce type de sexualité, en lui-même, n'est pas plus pathologique que l'homosexualité, donc il doit être sorti du cadre. Voilà. Ça, c'est vraiment un...
Sauf que le terme de sexualité, ça renvoie à un comportement sexuel, ça renvoie pas à l'identité de genre.
Ben, on peut aussi définir la transsexualité, à la différence de l'homosexualité, comme une sexualité qui a des conséquences sur l'identité et pas simplement sur le choix d'objet. Disons que c'est plus un mot qui permet de mettre les choses sur le plan de l'homosexualité ou de la bisexualité que sur le plan, comme les mots en isme, d'un état ou d'une condition pathologique. Ça donne un éclairage sur les enjeux de la redéfinition de soi-même. Et donc ça a des conséquences de type politique, de type moral, de type esthétique, et ça va bien au-delà de la simple question médicale. C'est-à-dire que le transsexualisme, c'est toujours une théorie du transsexualisme. Ça n'existe pas, le transsexualisme, si les gens n'ont pas des idées extrêmement précises de ce qu'ils veulent dire par là, de ce qu'ils veulent obtenir par là. Or, ces idées-là, elles changent. Au point qu'on peut vraiment se poser la question de savoir si ceux qui ont été étiquetés transsexuels il y a maintenant un siècle, hein, si les gens qui veulent changer de sexe ont tout simplement quoi que ce soit en commun à différentes époques de l'histoire. Hein, ça, c'est vraiment...
Alors, justement, donc, les psychiatres, donc, si j'ai bien suivi, ont repris plus ou moins la main dans les années 60. Et alors, le problème, c'est que la psychiatrie, ça établit quand même une grille de lecture relativement rigide, quand même. Ça établit des diagnostics, ça met des mots et des définitions sur des choses qui sont, disons, assez...
Qui étaient extrêmement conflictuelles avec ce que les gens disaient. Alors, c'est un sexologue important, Benjamin, Harry Benjamin, pour essayer de comprendre ce type de situation, il est arrivé avec, en quelque sorte, des portraits types, des portraits de gens de ce genre. Et à ce moment-là, il a considéré que ce n'était pas du tout des objets. C'est un endocrinologue. Il avait en face de lui des gens parfaitement sains d'esprit, parfaitement capables d'argumenter, et dont pour lui, il était totalement évident que la question même de la psychiatrie ne se posait pas vraiment. Et en fait, c'était une question de lutte d'influence entre les endocrinologues et les psychiatres. Parce que les endocrinologues vont dire, nous on voit des gens, hein, ils sont pas fous, moi je sais, je vois en aucune manière pourquoi ces gens seraient fous, et ils sont manifestement dans un état particulier où ils réussissent incroyablement à être des femmes, par exemple, et du coup, il n'y a pas de problème, on devrait répondre à leurs besoins. C'est probablement quelque chose d'endocrinologique, mais dont nous n'avons pas les moyens de détecter les traces. Et puis, à l'autre bout, vous allez avoir des gens comme les psychiatres qui vont dire « Mais cet extraordinaire succès-là, comme il n'y a justement aucun substrat biologique assignable, ne peut être qu'une forme dérivée de ce que nous connaissons bien à partir du président Schreiber. » Et donc, les gens vont dire « Voilà, opérer des gens qui demandent ça, c'est se faire complice de la psychose. » Voilà. Cette querelle, elle a duré tout le temps. En France, par exemple, c'est une polémique entre quelqu'un qui s'appelle Henri-Pierre Klotz, qui était un très grand endocrinologue, et Jean Delay. Et en fait, presque 50 ans plus tard, Henri-Pierre Klotz est celui qui a obtenu, après, je crois que c'était à l'Académie de médecine, en 89, que la France construise un protocole de transsexualisation dans lequel on consultait éventuellement le psychiatre, mais pour écarter les cas dont je vous parle, qui sont des cas manifestes de schizophrénie, où un élément du délire, c'est de changer de sexe, hein, pour les écarter, mais où au fond, le traitement était médical, était une réponse à une demande, interprétée comme une demande tout à fait de bon sens.
Il y a un certain nombre de cas auquel le protocole officiel ne correspond et ne répond absolument pas, qui est toute cette tranche de population qui s'appelle même les transgenres. Et ils ne sont pas forcément dans une quête identitaire aussi tranchée, enfin, ne correspondent pas du tout aux critères d'acceptation du protocole. Qu'est-ce qui se passe pour ces gens-là ?
Bah pour ces gens-là, c'est simple. Soit ils ont les moyens d'aller en privé et ils font ce qu'ils veulent dans la mesure du possible. Soit ils se font hormoner parce qu'ils ont envie d'être hormonés, soit ils se font juste opérer. Enfin, voilà. Soit ils peuvent rien faire parce que s'ils n'ont pas d'argent, ils ne pourront pas prétendre à aller en privé. Et que de toute façon, ce qu'il faut savoir, c'est qu'en ne voulant que l'un ou l'autre des hormonothérapies ou chirurgie, ils ne pourront pas changer d'état civil s'ils le souhaitent au bout du compte. Il n'y a pas vraiment de solution à part faire bouger les choses dans leur cas, quoi.
On ne peut pas faire un cas particulier des transsexuels dans l'ensemble des transformations de la médecine aujourd'hui. L'ensemble des transformations de la médecine consiste à donner de plus en plus de pouvoir aux individus de choisir. Et ça va bien au-delà pour des affaires de vie et de mort, ça va aussi pour le cancer ou pour les maladies chroniques, etc. Donc il faut peut-être, même si c'est très spectaculaire, dédramatiser ou défocaliser le point là-dessus en laissant peut-être aux individus une marge. Bon. D'un autre côté, on comprend très bien que les pouvoirs publics, l'argent public, ne puisse être fondamentalement alloué qu'à des situations dans lesquelles on a l'impression que ça entre dans un protocole qui ne relève pas du confort ou de l'amélioration d'un inconfort, mais de questions qui sont plus de vie ou de mort. Entre les deux, j'ai aucune idée de la situation, de ce qui va évoluer, je ne sais pas ce qui va en sortir, mais c'est très difficile de demander quelque chose, plus vous la présentez comme de l'ordre de la chirurgie de convenance, voire de la chirurgie esthétique, c'est quand même très difficile de la demander sans invoquer un critère d'urgence et donc de pathologisation comme celui qui a donné lieu au protocole actuel.
Vu qu'on a l'opportunité de mentir, c'est pas bien, mais voilà, un psychiatre, on peut se le mettre dans la poche. Pendant 2 ans et demi, je l'ai fait. Et, ben voilà, si moi j'ai pu le faire, tout le monde peut le faire. Enfin,
Florian.
On arrive toujours à nos fins si on en a vraiment envie. Dans la psychiatrisation, ce qui est débile, c'est que une personne, si elle est trans, elle a conscience de ce par quoi il faut passer. On sait que c'est dur et on va pas se jeter dans la gueule du loup, se faire charcuter et tout ça pour le plaisir. Donc forcément que les personnes qui sont pas trans et que c'est juste une idée comme ça vont pas aller se faire opérer pour le plaisir. Donc c'est là où le psychiatre, je sais pas quoi il sert.
Camille Cabral, vous êtes d'origine brésilienne, vous êtes transgenre, vous êtes dermatologue, vous êtes aussi une militante trans depuis de nombreuses années. Vous êtes aussi une militante dans une association et vous dirigez une association de défense des travailleurs et des travailleuses du sexe, et notamment transsexuelles aussi. J'ai rien oublié ?
Non, j'ai rien oublié.
Parce que c'est un protocole tellement rigide que finalement, il force les gens à mentir.
Si on ne ment pas, tu n'es pas suivi. Et le plus important est d'être heureuse dans la vie ou moins malheureuse dans la vie. Et quand arrivent des trans qui veulent être suivis pour avoir une apparence plus féminine ou plus masculine, à l'association, j'ai dit tous les critères qu'il faut éviter à être invisibilité. Donc, c'est la prostitution, c'est l'homosexualité, la séropositivité, d'être mère ou père. Donc, tout cela, j'ai dit, dites pas, parlez-en pas, parce que sinon vous êtes exclus.
Vous êtes actuellement très active dans le militantisme de défense des droits des prostituées. La prostitution, c'est un des critères d'exclusion, mais c'est aussi un des stigmates de la discrimination dont sont victimes les transsexuels. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ce mécanisme ?
Être trans n'est pas la même chose qu'être travailleuse de sexe. Mais la réalité amène que les trans, la discrimination, vu la méconnaissance de beaucoup de l'administration, soit de la police, soit de l'assistance publique, soit de la caisse primaire d'assurance maladie, ça fait que nous, les trans, sont véritablement des personnes, un groupe qui cause une espèce de grande interrogation pour ces personnes-là. Déjà, nous sommes une minorité, nous pesons très peu par rapport aux élections. Mais quand même, je crois que la grandeur de la République, c'est la grandeur d'avoir les droits et une cohésion sociale, même pour les diversités, même pour les minorités. Parce qu'être trans n'est pas la même chose d'être gay, d'être lesbienne ou d'être bisexuelle. Nous avons quelque chose de commun. Nous avons de commun la discrimination. Mais quand même, en parlant de ces critères de discrimination, je crois que les trans viennent en première lignée d'avoir les premiers coups, les premières balles. Tout ce qui est contre ces groupes-là, c'est en premier temps contre les trans qui s'adressent. J'ai même dit, avoir un logement, avoir un travail, ce n'est pas les mêmes conditions d'un gay, d'une lesbienne et d'une trans. Les trans n'ont pas les mêmes chances d'avoir tout ce que les gays et lesbiennes ont actuellement. Notre population, elle est complètement, disons, liée à ces poids extraordinaires d'exclusion, de précarité économique que connaissent pas les gays ni les lesbiennes. Nous sommes identifiables. Et les gays sont moins identifiables dans la société, mais nous sommes identifiables parce que nous avons une apparence et quand on va trouver un travail, il y a des papiers qui nous dénoncent tout de suite que cette apparence correspond à un sexe différent qui n'est pas concordant avec cette apparence. Et c'est pour cela qu'il y a de plus en plus d'exclusion et cette exclusion mène à ce qu'il n'y a pas de travail. Le monde d'emploi est fermé, les portes sont fermées, et donc ce n'est pas la peine de dire des mensonges. Une bonne partie, et sinon la majorité des trans, sont des travailleuses de sexe dues à la discrimination. Donc, je ne suis pas du tout à faveur de voir que mes sœurs transgenres continuent à faire le travail sexuel. Parce que ce n'est pas un choix, c'est quelque chose d'imposé par une société.
Alors, tu as obtenu cette semaine, ou la semaine dernière, ton changement d'état civil.
Ouais.
C'est-à-dire que tu es passé d'un état civil de femme à un état civil d'homme. Est-ce que tu peux nous expliquer comment ça se passe au niveau juridique?
Déjà, c'est... Il faut être hormoné, il faut être opéré de la mammectomie et de l'hystérectomie, ce qui sont obligatoires pour le changement d'état civil. Après, il faut prendre un avocat, monter tout un dossier qui contienne des photos de toi à partir du plus jeune âge jusqu'à ton âge actuel, avec à peu près un an, deux ans d'écart entre chaque photo. Une biographie complète de toi, écrite par toi. Des lettres de parents, d'amis, enfin des attestations, on appelle ça, de parents, d'amis, de la famille, de professeurs, enfin de qui tu peux, qui attestent que depuis ton plus jeune âge, depuis le temps que tu les connais, tu vis comme un garçon, tu t'appelles Florian pour tout le monde. Il faut toutes les attestations psy, endocrinologue, les certificats comme quoi t'as bien été opéré, les comptes rendus opératoires, et tout un tas de papiers qu'une fois que c'est réuni, tu peux, l'avocat l'envoie au greffier qui le fait passer au tribunal et qui ensuite te convoque pour passer devant le juge, la procureure et tout le reste.
On regarde les trans qui veulent faire toutes ces démarches des changements d'apparence et on va prendre un exemple. Un garçon qui s'est sans forme dans sa tête, donc il y a un sexe masculin, il a la conviction d'appartenir donc, avec sa pensée, sa sensibilité, avec sa vie, son apparence, qu'il a mis en accord avec ce qu'il sent dans la tête, cette personne elle est devenue une femme sociale. Donc j'ai trouvé que dans ces protocoles, non seulement c'est irritant pour les associations et pour la population trans, c'est parce que nous n'avons pas le choix de choisir nos médecins. Je crois que ces protocoles psychiatrisent trop les demandes des trans. Et il y a des critères inacceptables pour suivre des trans. Et une autre chose qui irrite les associations, c'est qu'il y a une normalisation cachée dans ces protocoles. Donc, on demande que la personne suivie par ces protocoles aille jusqu'à la réassignation sexuelle. Et que ce n'est pas le but de toutes les trans.
Vous pouvez expliquer le terme de réassignation sexuelle pour être clair?
La réassignation des sexes correspond, cette définition, à une chirurgie des changements sexuels. C'est-à-dire, dans notre cas, les garçons vers la transformation femme, et de faire un néo-vagin. Donc nous sommes contre. Nous sommes à faveur que les personnes choisissent, mais nous sommes contre cet établissement dans les protocoles comme une obligation d'avoir, toutes les femmes doivent avoir un vagin et toutes les femmes doivent avoir un pénis. Donc dans ces protocoles est cachée cette structure ou cette, disons, cette base de normalisation sociale. Et cela, nous ne sommes pas d'accord d'être émasculés, castrés et stérilisés si nous n'avons pas la conviction de ces choix-là. Donc, c'est dans ces buts-là que nous sommes en désaccord avec le système français.
I am what I am my own special creation. So come take a look, give me the hook. Or the ovation, it's my world that I want to have a little pride in. My world, and it's not a place I have to hide in.
Ce qui est pour moi le point le plus difficile à soutenir, c'est le caractère d'énigme de la chose. C'est-à-dire, vous êtes confronté à ce qu'il y a de plus radicalement subjectif et vous êtes obligé de voir jusqu'à quel point vous suivez. C'est-à-dire jusqu'à quel point vous acceptez que quelqu'un, comme ça, s'auto-prescrive, s'auto-diagnostique, s'auto-évalue. Voilà. C'est donc une question qui est un indicateur de notre tolérance ou de notre intolérance à une certaine forme particulière de liberté qu'on peut considérer, si vous voulez, comme une aliénation complète, presque une folie, c'est un discours de la liberté qui vire à la folie, ou au contraire, comme le prix qu'on a tous à payer pour être des individus libres. Non seulement il n'y a pas de panacée, mais ce qui fait l'intérêt fondamental de la démarche d'un certain nombre de gens, et de théoriciens d'ailleurs, parce que c'est, comme je vous l'ai dit, le transsexualisme ou le changement de sexe, il y a toujours une théorie avec. C'est de mettre le doigt sur des zones absolument cruciales du discours social, sur ce que c'est que l'individu, la liberté, le rapport au corps, etc. Et que ça, on n'en sera pas quitte. Et beaucoup de choses qui sont peut-être comme ça particulières ou localisées à la question du transgenre et du transsexuel ont en fait une portée beaucoup plus vaste. Le même problème va se retrouver à toutes sortes d'autres niveaux, et dont certains sont complètement imprévisibles, toujours liées à la possibilité des transformations technologiques, des fenêtres juridiques qui s'ouvrent, des moyens que les gens peuvent avoir et des notions et des concepts dont ils disposent pour pouvoir tenir un discours qui intègre tout ça. Et c'est ça qui va probablement se produire.
C'était Sur les Docs, des psys et des trans, rencontres du troisième genre. Merci à Camille Cabral, Pierre-Henri Castel, Kay et Florian. Merci également à Anya Servinska, au bar Les Souffleurs et au groupe King's Queer. Lecture du communiqué par Christine Moncla. Attachée d'émission, Christine Gage, Laure-Hélène Planchet. Prise de son, Pierre Comon, Francis Pascal. Mixage, Axel Brizard. Réalisation, Vanessa Nadjar. Un documentaire de Meta Chiteya.
Précision à l'issue de ce documentaire de Meta Chiteya, il y a moins de deux semaines, un décret est paru au Journal officiel de la République qui concrétisait l'annonce faite par la ministre Roselyne Bachelot-Narquin il y a quelques mois, le Code de la Sécurité sociale ne range plus les troubles précoces de l'identité de genre dans la catégorie des affections psychiatriques de longue durée. Commentaire réécoute possible de ce documentaire sur notre site. Ce site est accessible via franceculture.com. Le journal de la rédaction dans peu de minutes à 18h et d'abord la chronique d'Albert Jacquard.